Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaché de presse, émission hebdomadaire de politique à la CEPAC 83 avec Nicolas Dionne et Marc-Olivier Jacob. Bonjour Marco, comment tu vas?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien. Émission chargée aujourd'hui. Écoutez, on commence en force avec la politique municipale. On parle de l'Assemblée générale de Cherbourg Citoyen qui a eu lieu samedi dernier. On parle ensuite de... excusez-moi, le stress du début d'émission, mais ça sera pas trop long. On discute des différents congrès nationaux des différents partis au pouvoir à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, surtout de la CAQ, de Québec solidaire, ainsi que du Parti québécois, navré. Ensuite, on accueille un invité de marque, Guillaume Rousseau, professeur à l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de droit. On parlera de la loi 96 qui a été adoptée la semaine passée.
On va parler avec, dans le fond, professeur Rousseau, on va parler avec lui de la contestation de la loi 21 en Cour suprême et de l'appui du gouvernement fédéral. On va parler avec lui aussi de la clause dérogatoire aussi, qui risque d'être utilisée par le gouvernement du Québec. Ensuite, on va enchaîner avec une chronique avec Eden Bélanger. Avec lui, on va discuter du deuxième amendement aux États-Unis et de la tuerie qui a eu lieu la semaine passée au Texas. Et ensuite, on va conclure avec le débat en français de la chefferie du Parti conservateur qui avait lieu à Laval la semaine passée. Puis après ça, avec le bulletin de la semaine avec le bon coup et le mauvais coup en politique cette semaine.
Marco, on va s'excuser auprès de nos auditeurs auditrices parce que la semaine dernière, on ne s'était pas présenté adéquatement. Donc, Marco, qui es-tu? En quoi étudies? Pourquoi tu es ici aujourd'hui à nous parler de politique à la CEFAC?
Ben, dans le fond, moi, c'est Marc-Louis Jacob. Je suis étudiant à l'École de politique appliquée en deuxième année en politique publique. C'est un projet, cette émission-là, que je pensais, je caressais depuis un bout. J'en ai beaucoup discuté avec toi. Puis cet été, il y avait possible de faire un stage ici à la radio étudiante. Donc, j'ai appliqué, puis on a proposé le projet, puis on s'est lancé dans ce projet-là de faire une heure d'émission en direct d'actualité politique dans laquelle on allait décortiquer l'actualité, expliquer l'actualité. Nous, on voit notre format d'émission comme étant plus... On veut faire de l'analyse, on veut expliquer, on veut aller au-delà que de mentionner la nouvelle. Donc, c'est vraiment le but de notre émission, en parlant d'actualité. Puis aussi, en y allant avec des chroniques plus informatives, où est-ce qu'on on va parler plus de concepts théoriques aussi, qu'on trouve importants. Comme la semaine passée, on avait parlé du mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Puis on va continuer dans les prochaines semaines à faire d'autres capsules, d'autres chroniques dans ce style-là.
Super, effectivement. Alors qu'on avait un beau projet ensemble. Quand tu m'as lancé l'idée, moi, j'étais déjà à la CEFAC. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'anime le podcast Portrait d'un athlète, le podcast officiel du Vert et Or sur les ondes de CEFAC. Puis, lorsque j'ai vu, Marco rentre en ondes à la CEFAC, pourquoi pas changer notre fusil d'épaule, si vous pouvez me permettre l'expression. Et puis, on se lance là-dedans, dans ce projet-là. Un projet qui est... nettement très différent qu'un journaliste sportif comme j'avais l'habitude de le faire, mais j'aime le défi, puis la radio live, c'est quelque chose que je voulais essayer, puis voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, à notre deuxième émission déjà. Ça passe vite quand même, là, ça fait longtemps qu'on y pense. Donc voilà, pour les présentations officielles, on peut maintenant commencer notre bloc d'actualité. Donc, Marco, est-ce que tu nous introduis le sujet, puis j'y vais après?
Oui, exactement. Donc, la semaine dernière avait lieu la première Assemblée générale de Cherbourg Citoyen. Justement, Nicolas, tu y as assisté. De qu'est-ce qui a été question pendant la première Assemblée générale du parti après l'élection municipale d'octobre dernier?
Oui, exactement. Donc, j'étais présent samedi dernier au café Baobab sur la rue du Nant. Endroit très convivial. En fait, l'Assemblée générale, il y avait... une très belle ambiance, chaleureuse, conviviale. Beaucoup de membres également étaient présents. L'Assemblée générale, c'est comme tu l'as dit, Marco, c'était la première depuis la dernière élection où est-ce que, en plus du poste de mairesse avec Mme Beaudin qui a été élue, 7 conseillers conseillères ont été élus au conseil municipal de la ville de Sherbrooke. Donc, faut comprendre le contexte avec cette Assemblée générale-là, puisque avant les élections, la dernière Assemblée générale a eu lieu, pardonnez-moi, le parti était totalement dans un autre contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que après les élections de 2017, il y avait seulement Mme Beaudin qui était conseillère l'arrondissement du Carrefour. Pardonnez-moi. Donc oui, il fallait dépendre de l'heure. Donc il y a eu des changements aux règlements généraux pour les mettre notamment au goût du jour, puisque le parti est dans un contexte qu'il n'avait pas calculé auparavant. Donc, surtout des changements aux règlements généraux. On a présenté les états financiers de l'année dernière en période électorale, donc c'était pertinent de le présenter aux membres dans cette mesure-là. On a également discuté des objectifs du parti pour la prochaine année. Donc, on a parlé notamment d'un... On vise, lorsque je dis « on », je parle bel et bien du Parti Sherbrooke Citoyen. Le parti s'engage et a comme objectif d'accueillir 100 nouveaux membres dans la prochaine année. Il y a également un élément intéressant que j'ai noté. Le parti s'engage à recruter des... comme un objectif, en fait, pour avoir des stagiaires à l'année longue provenant de l'Université de Sherbrooke, mais aussi des institutions académiques aux alentours, que ce soit dans le domaine de la politique avec l'école de politique appliquée, dans le domaine de la communication, dans différents domaines connexes qui pourraient être utiles au parti. Le parti s'engage à accueillir des micro-stagiaires à l'année, ce qui correspond à un engagement que je trouvais vraiment intéressant et que c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Mais en gros, ça a été une assemblée générale fort. On sentait une énergie contagieuse. On voyait aussi qu'il y avait un petit peu de nostalgie puisque c'est la première fois que le parti organisait une assemblée générale depuis l'élection. Donc, j'ai pu assister à des vidéos durant la campagne, dernière campagne électorale, où est-ce qu'on voyait les différents députés en porte-à-porte conseillers-conseillères en porte-à-porte et lors de divers événements. Donc, c'était une ambiance vraiment agréable pour tous ceux et celles qui étaient présentes. Donc, voilà pour l'Assemblée générale de Sherbrooke Citoyen qui a eu lieu samedi dernier au Café Baobab.
Parfait. On va continuer dans le même sujet, mais au niveau provincial. Il y avait le congrès de la CAQ qui avait lieu à Drummondville en fin de semaine, samedi. Entre autres, on a présenté le cahier du participant dans lequel se regroupaient 22 résolutions. On peut le dire, c'était quand même un congrès assez nationaliste. Dans le fond, pour résumer un peu les résolutions, les principales, la coalition du Québec va proposer de créer un musée de l'histoire nationale du Québec. On propose aussi de créer un cours obligatoire d'histoire du Québec contemporain au tronc commun dans les cégeps. Aussi, est-ce qu'il y avait autre chose, Nicolas, qui t'avait titillé par rapport au cahier?
Ben, lorsque tu parles de congrès nationaliste, moi, ce qui m'a fait titiller, en fait, si je peux me permettre, c'est le cahier du participant, comme la CAQ l'a présenté. Aucune résolution, aucun point n'avait rapport avec quelconque enjeu de société plus concret. Si je peux me permettre, par exemple, notamment sur le plan de la santé, sur le système de santé actuel, mais également sur le point de l'environnement. Donc, lorsqu'on peut lire le cahier du participant, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va mener lors de la campagne qui veut pas. Oui, elle est cet automne, mais elle arrive à très grands pas, même qu'avec ce congrès-là, on peut dire que ça serait quand même un élément non pas très loin de dire que l'élection s'en vient, elle est déjà commencée, si je peux même me permettre de le mentionner. Donc, ça risque d'être très intéressant lors des prochaines semaines pour la suite des choses. Mais effectivement, on voit que la CAQ promouvoit l'aspect d'être de fierté québécoise pour aller chercher différents électeurs électrices en vue de la campagne. Le Congrès a accueilli massivement beaucoup de personnes. Le Conseil des ministres au grand complet était présent. Donc, on voit un engouement pour la coalition Avenir Québec à l'heure actuelle. Puis, ça va être intéressant pour les semaines à suivre. Là.
Oui, effectivement, on parlait d'engouement aussi. Il y a eu la présence de plusieurs manifestants aussi qui étaient là, dans le fond, pour en lien avec diverses causes, là, que ce soit pour la cause environnementale, les crises sociales au niveau du logement, ou même des revendicateurs des mesures sanitaires aussi qui étaient présents comme manifestants. Il y avait aussi la présence de sécurité qui était quand même assez importante, on peut le souligner. Du côté du PQ... Aussi, on avait aussi le Conseil national du Parti québécois qui avait lieu à Boucherville en fin de semaine aussi. C'est quoi les thèmes qui ont été abordés pendant ce Conseil national-là, Nicolas?
Si je pourrais le résumer en un seul grand thème, en fait, c'est on a senti une certaine crainte du Parti québécois vis-à-vis un gouvernement caquiste trop fort. On a senti que le parti voulait promouvoir l'idée que le PQ pouvait être un choix solide comme principale opposition, première opposition, partie d'opposition à l'Assemblée nationale. Ça a été senti comme ça. Il y avait une tension de cette manière-là, mais ce que j'ai retenu aussi, c'est l'appui rapide et même très fort de Yves-François Blanchet, dans lequel il a partagé un discours, notamment sur... il a mentionné cette citation suivante: « A-t-on besoin de 128 députés de la CAQ cet automne? » Ce qu'il veut dire par là, c'est on ressent, même le Parti québécois ressent que la CAQ a le vent dans les voiles, et je sens que... Avec ce genre de citation-là, lors du congrès du PQ, ça va être intéressant de voir la suite de la campagne. On a senti aussi le chef Paul Saint-Pierre-Plamondon parler bien évidemment de souveraineté. Ça a été un sujet, c'est pas un secret pour personne, un sujet fort, fort discuté du côté du Parti québécois. Donc c'est encore une fois très intéressant. Il y a aussi l'idée, faut qu'on mentionne que le Parti québécois organiser son congrès la même journée que la coalition Avenir Québec. Est-ce que ça c'était prévu? Est-ce que c'était un secret de polichinelle que les deux partis ne savaient pas que les deux faisaient leur congrès en même temps? Donc c'est quand même curieux de voir que les deux partis, même on va en parler plus tard avec Québec solidaire, que les trois ont réalisé leur congrès à la même date. Là.
Effectivement, dans le fond, pour résumer la situation pour le Parti québécois, l'enjeu principal pour la prochaine élection va être de se démarquer de la CAQ. Justement, avec le côté plus indépendantiste, alors que la CAQ va défendre plus un côté qui va être nationaliste, mais en restant à l'intérieur du Canada. Aussi, avait lieu à Montréal le congrès de Québec solidaire.
Oui, exactement. Donc, encore une fois, les trois partis ont réalisé leur congrès en même temps. Québec solidaire... Un congrès qui promouvait surtout la plateforme et les idéaux principaux de Québec solidaire, je peux me permettre. Donc, encore une fois, la gauche, comme le parti le mentionne, notamment sur l'environnement, que ça a été un grand sujet. Un grand sujet élaboré durant le congrès. Il y a eu aussi certaines critiques de la base militante par rapport à la loi 96 qui a fait beaucoup jaser, étant donné, comme je peux expliquer les mots de Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole du parti. En fait, Québec solidaire a appuyé la loi 96 de la coalition Avenir Québec, mais en spécifiant très clairement qu'avec un gouvernement solidaire, il allait changer quelques éléments au projet de loi, notamment sur le plan de tout ce qui entoure le dossier des personnes autochtones, mais aussi avec le temps alloué aux immigrants qui arrivent au Québec pour apprendre le français, qui, à l'heure actuelle, est de 6 mois. M. Dubois a mentionné qu'il voulait que le parti allait allonger cette période pour les personnes immigrantes. Donc, ça a été un congrès, trois rassemblements de partis fort importants. Donc, c'est la campagne, on peut le dire, est commencée, et ça va être intéressant pour la suite des choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Marco?
Non, je pense que tout a été dit. Justement, Gabriel Nadeau-Dubois avait mentionné avoir voté que le parti avait voté pour la loi 96, justement, parce qu'il y avait certaines prérogatives qui concernaient la plateforme de Québec solidaire, dont l'application de la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale au Québec. Mais comme mentionné, justement, un gouvernement solidaire va modifier la loi en question.
Parfait. Donc, c'est ce qui est pour l'actualité des trois congrès nationaux qui ont eu lieu en fin de semaine. On s'en va en musique avec Corias et Karim Ouellet qui vont nous jouer l'hiver. Reste à l'écoute, c'est les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3.
Déjà un bout que je peux plus dire que je t'aime, la fille qui est dans mon lit. Je la vois de moins en moins dans la vie que je mène. Mais hey, je sais qu'on est ensemble depuis longtemps, mais l'amour est parti au vent, s'est dissipé au fil du temps sans rien dire. Hey, j'ai déjà cessé de croire que ça va revenir. Je vais enfin pouvoir me leur dire que c'est ton enfant que je veux tenir. Mais j'essaye de trouver les bons mots pour dire que l'amour est mort. J'essaye de fuir de tous les bords, mais je peux le sentir dans tout mon corps que c'est mort. Rappelle la première fois que je t'ai vu, combien que je t'aimais dans les débuts. Je dis pas que je regrette ce que j'ai vécu avec toi. Hey, on est deux étrangers qui vivent ensemble à regarder mourir la flamme. C'est allé partir ensemble. J'ai vu sommeil, je vois souvent le soleil se lever. Je pense des nuits blanches à paniquer devant l'évidence que je vais laisser un vide immense. Pourtant j'essaye encore de me convaincre que ça te fera pas trop mal quand tu vas me demander si je t'aime. Pis que moi je vais te répondre, faut qu'on se parle. Jamais je dirais que je veux qu'on reste des grands amis. Le meilleur moyen d'oublier, c'est que je vois juste plus dans ta vie. Tu sais que c'est dur pour moi aussi. Je me sens comme un vrai salaud de faire du mal à celle qui m'aime en mettant ses projets à l'eau. Parce qu'à tes yeux, je suis ton homme sort. Comprends charmant ce que tu désires, qui va devenir une vieille douleur que mis du temps à bien guérir. Mais je m'en vais pas en souriant te faire de la peine, ça me fige de peur. C'est comme le contraire d'en t'oubliant. Ce coup-ci, c'est moi qui brise le cœur. Toutes mes affaires, là, mon taxi est en avant. Je prends mes deux valises à terre, puis je soupire en m'en allant. Cette année, l'hiver est vraiment froid, je suis certain qu'on bat des records. J'ai refermé la porte derrière moi, mais j'ai pas le goût de sortir dehors.
Alors, bienvenue aux attachés de presse. Alors, pour ce deuxième bout de l'émission, on va s'entretenir avec Guillaume Rousseau, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, spécialiste du droit constitutionnel et du droit de la langue française. Bienvenue, M. Rousseau.
Merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation, qui est un peu de dernière minute, pour discuter de la loi 96 et de la loi 21 avec nous. Dans le fond, premièrement, c'est qu'est-ce que la loi 96 et pourquoi vouloir réformer la loi 101?
Donc, la loi 96, effectivement, c'est une loi qui vient réformer la loi 101. Il faut comprendre d'abord que la loi 101 a été adoptée en 1977, donc il y a tout près de 45 ans. Donc, c'est juste sur le plan de la légistique, donc de comment on élabore les lois, on les met à jour. Donc, c'est une loi qui était due. Les grandes lois de ces années-là, souvent, comme la loi sur les biens culturels, a été refaite il y a quelques années. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme aussi va être refaite. Donc, déjà, c'est assez normal après 40 ans qu'on remette le tout à jour. Puis ensuite, s'ajoute à ça le fait que dans les dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont démontré le recul du français, en particulier à Montréal, dans les milieux de travail et tout. Donc, tout ça mis ensemble, Et évidemment, bon, à la fin, ça prend une volonté politique. Et quand on a vu le premier ministre Legault nommer M. Jolin Barrette comme ministre de la Langue, on savait qu'il y avait une volonté politique d'aller de l'avant. Fait que je vous dirais que c'est tout ça ensemble.
Parfait. Comme on l'a mentionné, justement, la loi 96 va venir, dans le fond, réformer la loi 101. Mais aussi, la loi 96 va apporter des modifications à d'autres lois. Quelle autre loi va être modifiée par la loi 96?
Donc, il y en a plusieurs, de mémoire, le Code civil, par exemple. Donc, c'est vraiment, parce que dans le fond, l'essentiel du droit linguistique au Québec, c'est dans la Charte de la langue française. Mais après ça, il y a plusieurs lois qui peuvent toucher les langues en disant, bon, mais dans tel ou tel cas, il faut déposer tel genre de procédure au gouvernement en anglais ou en français. Et là, whoops, on change ça pour dire, il faut plutôt déposer des procédures en français seulement. Donc, l'exemple qui me vient en tête, c'est le Code civil là, qui est modifié.
Si, M. Rousseau, j'avais une question quand même assez spécifique, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a beaucoup de critiques sur la loi 96, notamment sur le ratio d'étudiants francophones dans les cégeps anglophones. Où est-ce que ces détracteurs disent que cette loi est juste discriminatoire? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là, en fait?
Donc, discriminatoire, je sais que l'argument a été sorti pour le fait d'avoir plus de cours de français dans des cégeps anglophones. Puis là, bon, on dit que certaines personnes pourraient avoir de la difficulté, des autochtones ou quoi. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut répondre à ça, c'est que normalement, dans un cégep, la façon que ça fonctionne pour les cours de langue, notamment les cours d'anglais dans les cégeps français ou de français dans les cégeps anglais, c'est qu'on va partir du niveau de l'étudiant. Donc, si l'étudiant a un niveau très faible, va commencer avec un cours d'introduction à la langue. Au contraire, un étudiant qui est très bon en français dans un cégep anglais va avoir un meilleur cours, un cours de plus haut niveau. Donc, ce qui fait en sorte que c'est déjà un peu adapté, parce que c'est un petit peu ça la question de discrimination, droit à l'égalité. C'est de pas nécessairement avoir la même norme pour tout le monde sans tenir compte des situations particulières. Et normalement, dans les cégeps, on a cette adaptation-là. Fait que je vois pas trop de problèmes de ce côté-là. Puis sinon, de dire, bon, là, il y aurait peut-être un petit peu moins d'accès dans les cégeps de langue anglaise pour les francophones. Bon, il reste que on n'a pas appliqué la loi 101 au cégep comme tel. Donc, on a juste dit, bon, ben là, il faudrait peut-être limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones. Puis, bon, puis même si on appliquait la loi 101 au cégep, il n'y aurait pas nécessairement de problème eu égard au droit à l'égalité. Donc voilà, il va falloir attendre les contestations. À date, la contestation vient plutôt de la commission scolaire English Montreal. Donc, ça ne sera probablement pas sur une question de discrimination, mais vraiment sur une question des droits des anglophones à gérer leurs écoles et tout, mais un droit qui ne touche pas le cégep. Donc, ça, bien hâte de voir la requête. Donc voilà.
Justement, pour continuer avec d'autres critiques qui ont été apportées justement par la loi 96, c'est quoi les critiques qui ont été faites principalement par les partis d'opposition comme le Parti libéral ou d'autres organismes ou organisations face au gouvernement du Québec?
Donc beaucoup la question des cours de français dans les cégeps anglais. Donc, on veut plus de cours de français dans les cégeps anglophones. Et là, au début, ça devait être des cours en français. Donc, par exemple, un cours de philo ou un cours de technique en français. Et là, on peut comprendre que c'était comme une coche au-dessus. Donc, ensuite, on est revenu en arrière. Le gouvernement a dit, OK, ça, c'est peut-être trop. Donc, allons pour des cours de français. Donc, de français langue seconde. Et ce qui est particulier, c'est que l'idée, au départ, venait du Parti libéral. Puis ensuite, peut-être que le Parti libéral surestimait le niveau de bilinguisme des étudiants dans les cégeps anglophones. Donc, là, ensuite, il y aurait trop pédaler, le gouvernement l'a suivi, on est passé de 3 cours en français à 3 cours de français, mais ça reste un élément qui est critiqué. Bon, ensuite, il faut voir, je pense que c'est pas prévu pour septembre prochain, donc on va laisser un peu de temps, il faut que les cégeps s'adaptent, il faut peut-être que l'école secondaire s'adapte aussi en amont pour mieux préparer les étudiants diplômés des écoles secondaires anglophones à suivre plus de cours en français au cégep. Donc, je pense que sur le temps puis les efforts qui seront mis, puis la collaboration avec le ministère, il peut y avoir des discussions, puis que le gouvernement doit sans doute être à l'écoute de ça, puis s'assurer là, des mesures d'adaptation et d'aide au réseau scolaire anglophone. Mais sur le fond, je pense que c'est quand même, il y a un assez large appui pour dire, ben, il faut que nos compatriotes de langue anglaise aient le maximum possible là, de connaissances en anglais, en français, parce qu'ensuite, c'est directement lié à la langue de travail. C'est-à-dire que si vous avez un anglophone dans votre milieu de travail puis qui est très, très faible en français, bon, mais là, tout le monde va se mettre à parler anglais pour être sympathique, alors que normalement, c'est le français, langue de travail, le droit de travailler en français, c'est un droit fondamental. Donc, je pense que cette mesure-là me semble importante. L'autre aspect, bon, c'est on dit que les Autochtones, bon, certains pourraient avoir de la difficulté, mais je reviens à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire normalement, quelqu'un qui a de la difficulté va être placé à un niveau dans un cours de niveau débutant, bon, ou intermédiaire, s'il est un peu meilleur. Fait que je suis pas sûr que c'est nécessairement un enjeu si important pédagogiquement. Maintenant, politiquement, on sait la sensibilité pour la question autochtone. On sait que, entre autres, les Mohawks peuvent être très, très actifs et réactifs. Donc, politiquement, ça me semble assez, assez chaud comme dossier. Peut-être que le gouvernement aurait dû... Bon, finalement, il y a rien qui concerne, il y a à peu près rien qui concerne directement les Autochtones dans le projet de loi, sauf un aspect qui, finalement, vient permettre un petit peu plus d'anglais pour les professionnels, là, notamment en lien avec les Autochtones. Donc, il y a rien. Le peu qu'il y a, finalement, c'est plutôt accommodant, mais il y a quand même une réaction politique. Donc, est-ce que le gouvernement, peut-être, aurait dû profiter de son projet de loi qui vise à renforcer la protection du français pour arriver avec des mesures favorables aux langues autochtones? Peut-être que politiquement, ça aurait été habile, mais bon, il ne l'a pas fait, ce qui ne veut pas dire que ça ne viendra pas à court ou moyen terme. Mais je pense que cet aspect-là, comme je vous dis, pédagogiquement, ça m'apparaît exagéré, les critiques, mais politiquement, il aurait pu avoir une plus grande sensibilité du gouvernement.
Justement, vous mentionnez que justement, si c'est un dossier chaud politiquement, il n'y a pas justement la loi 96 qui est un dossier chaud. Il y a aussi la contestation possible de la loi 21 devant la Cour suprême, et l'appui du gouvernement fédéral. Est-ce qu'il y a un dispositif qui permet à Ottawa, justement, d'appuyer une contestation en Cour suprême d'une loi qui est provinciale dans un champ de compétences qui est provincial?
Oui, tout à fait. Il y a deux choses. Il y a le procureur général du Canada, donc l'avocat du gouvernement du Canada, qui peut intervenir devant les tribunaux pour contester une loi québécoise ou pour appuyer des groupes qui contestent une loi québécoise. Donc là, ici, ce serait ça l'hypothèse. Quoi que le fédéral dit qu'il veut attendre que la contestation de la loi se rende en Cour suprême le cas échéant. Et l'autre possibilité pour le fédéral, c'est que le fédéral a un fonds qui permet de financer des gens qui contestent des lois, notamment des lois québécoises, notamment en matière linguistique. Et à la base, si je me souviens bien, la commission scolaire English Montreal, possiblement d'autres commissions scolaires anglophones, avait effectivement obtenu des fonds ou la possibilité d'avoir des fonds du fonds de contestation judiciaire du fédéral parce qu'ils disent que la loi 21 porte atteinte au droit des anglophones de gérer leur école comme ils veulent, là, parce que la loi vient, bon, fixer un certain nombre de critères. Les enseignants doivent pas avoir le visage couvert ou porter un signe religieux et tout. Donc, les commissions scolaires anglophones disaient cette règle-là nous empêche de gérer de manière autonome nos écoles, alors que la Constitution canadienne nous permet cela. Bon, c'est ce qu'a décidé le juge de première instance, mais ça s'en va en appel, puis on verra jusqu'où ça va. Mais le fait que, donc, on invoque la Charte canadienne des droits linguistiques, ça permet d'avoir accès à des fonds fédéraux.
Parfait. Justement, si la Cour suprême, dans le fond, tranche en faveur, dans le fond, des contestataires de la loi, pour la loi 21, est-ce que le Québec va être obligé de faire marche arrière sur cette loi-là?
Oui, c'est vraisemblablement. Parce que, bon, si on dit que c'est pas que la question du rapport État-religion n'est pas de compétence québécoise, mais c'est de compétence fédérale, bon, là, toute la loi tombe. Si on dit que, bon, ça porte atteinte aux droits des anglophones à gérer leur propre école, ça tombe. Donc, comme la disposition de souveraineté parlementaire, là, dite de dérogation, est déjà dans la loi, ben là, le gouvernement pourra pas la mettre après coup. Donc, les tribunaux vont se pencher avec la loi contenant cette disposition-là. Donc, c'est pas comme si on l'avait pas mis. Puis là, les tribunaux venaient dire, bon, la loi porte atteinte à la liberté de religion ou je ne sais trop. Puis là, après ça, le gouvernement pouvait réagir en mettant la disposition de dérogation. Là, elle est déjà là. Fait que qu'est-ce que peut faire le gouvernement si jamais du Québec, s'il y a vraiment une déclaration d'inconstitutionnalité? Bon, à moins que des fois, ce que font les tribunaux, c'est qu'ils disent, voici, votre loi est inconstitutionnelle, mais dans le fond, si vous la réécriviez de telle manière pour concilier tel ou tel droit, là, elle deviendrait peut-être valide constitutionnellement. Donc, si la Cour suprême rend ce genre de jugement-là, comme elle l'a déjà fait pour la loi 101, ben là, le gouvernement pourrait revenir puis avec faire une loi conforme aux directives de la Cour suprême sans nécessairement les suivre à 100%, là, ce qui donnerait lieu à un autre épisode de contestation judiciaire. Donc, il pourrait y avoir peut-être cette hypothèse-là.
Justement, vous parlez justement de la clause dérogatoire que le Québec pourrait utiliser, justement, dans le fond, pour garder la loi 21 active. C'est quoi la clause dérogatoire, entre autres?
Donc, c'est une clause qui se retrouve à la fois dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise. Et ce que ça dit, c'est que, donc, normalement, on adopte une loi, puis là, ceux qui sont pas d'accord avec la loi peuvent la contester en disant « ça porte atteinte à tel ou tel droit prévu par la Charte canadienne ». Puis là, un juge peut interpréter les droits comme, effectivement, comme... comme permettant d'invalider la loi, c'est-à-dire ou interpréter la loi comme, comme violant certains droits. Et là, la loi cesse de s'appliquer, elle est déclarée inconstitutionnelle. La disposition de dérogation, ça vient empêcher les juges de faire ça. Donc, on vient dire, par exemple, ben, la loi sur la laïcité, vous ne pouvez pas la contester en vertu des articles 2, 7 à 15, les articles visés par la disposition de dérogation. Donc, si vous souhaitez dire que la loi est contraire au droit à l'égalité ou je ne sais trop, vous ne pouvez pas faire ça parce que la loi est protégée contre les contestations constitutionnelles, contre les jugements des tribunaux qui pourraient interpréter les droits de manière à invalider la loi.
Parfait. Est-ce que tu avais une question, Nicolas?
Mais oui, en fait, moi, c'est une petite question tout simple. Ce genre de processus judiciaire par rapport à la loi 21, au-delà du judiciaire qui pourrait avoir des conséquences, ce que je pourrais dire, significatives, qu'est-ce que ce genre de processus pourrait amener comme conséquence, notamment entre les relations Canada-Québec à l'heure actuelle, où est-ce qu'on a un gouvernement caquiste qui prône le gouvernement fort aux yeux du Canada notamment là?
Ouais aussi, ouais. Puis aussi, on a su dans le fond au débat des chefs conservateurs que même un gouvernement potentiellement conservateur va appuyer une contestation de la loi 21. Et Pierre Poilievre est revenu sur ses propos en affirmant que lui aussi allait contester la loi 21 aussi en cause, appuyer une contestation.
Ouais, tout à fait. Donc, ce qui peut arriver s'il y a un jugement de la Cour suprême qui vient invalider en partie ou en totalité la loi 21 ou encore la loi 96 parce qu'il y aura sûrement des contestations de cette loi-là aussi. Bon, là, comme la disposition de souveraineté parlementaire est déjà en place puis que là, bon, par hypothèse, ça serait contourné, invalidé, limité par la Cour suprême, cette voie-là ayant déjà été empruntée, le gouvernement pourrait pas aller là. Donc, juridiquement, il lui resterait pas beaucoup d'avenues, là. C'est vraiment pas évident. Mais politiquement, il pourrait avoir toutes sortes de réponses de la part du gouvernement. Gouvernement Legault, on peut penser qu'il pourrait lancer une vaste campagne de consultation, une commission de consultation, un petit peu comme quand il y avait eu l'échec de l'accord du Lac Mead, puis ensuite, bon, l'échec de Charlottetown et tout. Donc, quand le Québec s'est retrouvé face à des refus du fédéral ou du Canada anglais, souvent, une façon de faire, c'est de consulter les Québécois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, d'entendre les Québécois sur le thème de la place du Québec dans le Canada, l'avenir constitutionnel du Québec. Et là, ben, techniquement, toutes les cartes sont sous la table. Bon, évidemment, les souverainistes vont arriver avec leur solution et d'autres personnes favorables à la réforme du fédéralisme. Peut-être vont dire, ben, il y a peut-être une façon de forcer les autres provinces à appuyer le Québec dans une réforme de la Constitution. Donc, on peut imaginer que ça l'ouvrirait un front au niveau de possibles négociations constitutionnelles en vue d'une réforme de la Constitution canadienne, ou ça ouvrirait un front du côté des souverainistes là, qui pourraient faire un retour en force.
Monsieur Rousseau, merci pour votre temps en radio. Pour votre temps, c'était super intéressant. On s'en va en publicité et en musique avec Bon Enfant qui nous joue Magie. C'est les attachés de presse à CFAQ 88.3. Merci. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices. On est de retour aux attachés de presse sur CFAQ 88.3. On invite notre collègue à moi et Marc-Olivier, Eden Bélanger, ancien étudiant à l'école de politique appliquée et qui sera cet automne à la faculté de droit pour son baccalauréat en droit. Comment ça va, Eden?
Salut les gars, ça va bien?
Ben oui, super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ouais, merci à vous.
Donc, pour ce qui est, moi et Marco, on va présenter le sujet, le prochain sujet qui est le débat de la chevrie des conservateurs qui a eu lieu mercredi dernier, un débat en français. Puis Eden, par la suite, va nous discuter la malheureuse tragédie de la tuerie au Texas qui a eu lieu la semaine dernière et qui amène plusieurs questions constitutionnelles importantes, notamment sur le droit du port d'armes. Donc, on va y arriver plus tard. Donc, Marco, mercredi dernier, débat de la chefferie des conservateurs en français. D'abord, rapidement, quel genre de débat on a eu la chance d'avoir vu à Laval cette fois-ci? Donc, comment tu pourrais commenter ça rapidement?
C'est un débat qui était quand même intéressant. C'était le premier débat qui était en français pour la course à la chefferie. La foule était très, très, très bruyante. Vraiment, le modérateur du débat à plusieurs reprises a demandé à la foule de cesser les applaudissements ou les encouragements envers un candidat. Mais ce qui est à retenir, évidemment, c'est qu'il y a deux candidats qui se démarquent de la course à la chefferie, c'est Pierre Poilievre et Jean Charest. Aussi, il y a le troisième candidat qui est dans la course, qui est Patrick Brown aussi, qui a réussi un peu à se démarquer, mais à cause de la barrière de la langue, un peu de difficulté à s'exprimer en français. Mais ce qu'il y a à retenir pour le débat, évidemment, du côté de Pierre Poilievre, la vision du parti que celui-ci veut laisser, s'il est chef du Parti conservateur, c'est le parti qui va faire devenir le Canada comme étant le pays le plus libre au monde, que ce soit pour la liberté de choix, liberté économique, liberté d'expression. Vraiment, on est dans la tradition conservatrice pure au niveau des libertés individuelles. Pour ce qui est de Jean Charest, vraiment, sa vision du parti, son héritage qu'il veut laisser s'il devient chef du Parti conservateur, du côté de Charest, on veut unir le parti, on veut l'élection d'un gouvernement majoritaire dès la prochaine élection et on veut faire élire des députés conservateurs dans chaque région du Canada pour que, dans le fond, toutes les régions soient, couvertes par les conservateurs. Ça, c'est pour ce qui est de la vision du parti. Ce qu'il y a à retenir au niveau des grandes lignes, au niveau des promesses que Pierre Poilievre et Jean Charest ont fait s'il allait devenir premier ministre. Du côté de M. Poilievre, au niveau de la sécurité publique, on veut renforcer les frontières, on veut empêcher les armes de poing illégales de rentrer par les États-Unis, ainsi que la drogue. Et évidemment, on veut aussi arrêter les criminels et alourdir les peines d'emprisonnement pour ceux-ci. Donc, on est encore dans la tradition conservatrice de la loi et l'ordre. Et du côté de Jean Charest, pour ce qui est de la sécurité publique, on veut faire une lutte au crime organisé. Pour citer Jean Charest, on veut faire des gestes anti-gang, comme l'escouade Carcajou, sous son mandat libéral pendant son règne ici au Québec. On veut créer des escouades, on veut interdire les armes de poing, on veut réduire l'accessibilité aux armes de poing, justement, illégales. Puis aussi, on veut des peines plus sévères pour les criminels, pour les criminels. Et ce qui démarque Charest de Poilievre au niveau de la sécurité publique, c'est que Jean Charest veut hausser, dans le fond, les peines de prison pour les criminels qui s'attaquent aux personnes qui sont premiers répondants. Donc, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, tout ça. On veut hausser les peines d'emprisonnement. Pour ce qui est de Jean Charest au niveau économie, on veut créer un pays prospère, on veut exploiter les ressources énergétiques, mais réduire les GES en même temps. Pour ce qui est de Poilievre aussi, ça ressemble un peu à la même chose. Puis aussi, l'autre enjeu qui était important, c'est celui de l'inflation en ce moment. Évidemment, le coût de la vie augmente, c'est 6,8% juste au cours du dernier mois. Pour ce qui est de Pierre Poilievre, pour, dans le fond, contrer l'inflation, on veut éliminer les déficits inflationnistes qu'a apporté le gouvernement libéral de M. Trudeau. On veut éliminer la taxe carbone, on veut suspendre la taxe sur l'essence pour l'été, puisque vraiment à 2$ de litre, selon lui, c'est inacceptable de payer 2$ le litre pour l'essence. Aussi, on veut arrêter l'impression de l'argent afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Canadiens et des Canadiennes. Pour ce qui est de M. Charest, justement, pour l'inflation, on veut faire comme... En fait, le plan de Jean Charest pour lutter contre l'inflation, c'est le même que celui de 2008. On veut réduire les dépenses du gouvernement et réduire les impôts, dans le fond, des particuliers pour leur donner un plus grand pouvoir d'achat. Ça ressemble à ça un peu.
Bien résumé. Peux-tu nous parler de la citation forte de Jean Charest qui a mentionné on veut pas être comme les Américains pendant le débat? Parce que dans le débat à la chiffrée, on a senti des genres d'attaques super quand même personnelles de la part de Poilievre sur Jean Charest. Puis Jean Charest a mentionné que on veut pas amener les aspects plus négatifs de la politique américaine ici. Puis Jean Charest a notamment parlé de respecter les idées de tous et chacun. Donc, comment tu pourrais commenter ça?
Ben, en fait, je vais commencer par le point sur les attaques plus personnelles qui étaient visées. Évidemment, ça venait de tous les parts, tous les côtés.
Comme à chaque débat,
mais vraiment, là, cette fois-ci, là, on a répété un peu les mêmes choses qui étaient dites en anglais. Du côté de M. Jean Charest, on a attaqué Pierre Poilievre sur sa position sur la crypto-monnaie, sur le congédiement du directeur de la Banque du Canada. On l'a attaqué aussi sur l'appui sur le convoi à Ottawa en disant que M. Poilievre n'était pas un candidat à la loi et l'ordre, puisqu'en tant que législateur, il avait appuyé un convoi qui brimait les libertés, qui bloquait, dans le fond, le siège d'une ville. Là. C'est ça que je veux dire. Après ça aussi, ben, du côté de Poilievre, on a répliqué en disant que M. Charest est dans la continuité de la tradition libérale que M. Trudeau fait en ce moment. Donc, avec un gouvernement Charest, ça serait un gouvernement qui va être inflationniste. M. Poilievre, après ça, a mentionné que sous M. Charest, les Québécois n'ont jamais été aussi taxés. Il a fait référence à la taxe sur la santé, taxe carbone. Puis ça ressemble à ça. Puis aussi, ben, y a M. Patrick Brown aussi qui a essayé de s'insérer. Mais vraiment, il fallait vraiment être au courant des dossiers vraiment pour suivre les attaques de M. Brown et M. Poilievre entre eux. C'était vraiment sur des détails très micro-précis, ce qui a fait tout perdre l'essence au débat entre les deux quand il y avait face à face.
Merci Marc-Olivier pour ton bon résumé du débat de la chefferie du Parti conservateur du Canada. On s'en va en publicité rapide et ensuite on parle du deuxième amendement aux États-Unis. Restez là aux attachés de presse sur CFAQ 88.3. On est de retour aux attachés de presse. C'est Nicolas Dionne, Marc-Olivier Jacob et notre collègue Eden Bélanger qui vient nous parler du deuxième amendement aux États-Unis. Mais avant toute chose, Marco, t'avais un petit dernier élément à mentionner pour clore le dossier du débat des chefs.
Oui, effectivement, juste répondre à ta question que tu m'avais posée sur, dans le fond, Jean Charest, qu'est-ce qu'il voulait dire pour ce qui est de ne pas faire de la politique comme aux États-Unis. Jean Charest a mentionné en conclusion de débat que pour lui, ce qui est important, c'est d'être le chef des conservateurs pour tous les Canadiens et Canadiennes et de ne pas faire de la politique à l'américaine. Ce que Jean Charest voulait faire référence en disant ça, c'est pas faire de la politique qui était plus axée vers le populisme puis plus vers les attaques entre, puis de diviser pour mieux régner. C'est vraiment ça à quoi Jean Charest faisait référence.
Merci beaucoup, Marco. Donc, Eden, c'est un sujet d'actualité très chaud, si je peux me permettre, puisque le dossier du port d'armes aux États-Unis, c'est toujours été un enjeu fort important, mais que peut-être ici, on pourrait... On voit d'une façon différente que nos voisins du Sud. Donc, qu'est-ce que le deuxième amendement, pour commencer?
Ben, dans le fond, le deuxième amendement, qu'est-ce qu'il dit? Là, je cite le texte, c'est une traduction, bien sûr, il est écrit en anglais, mais « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, virgule, ce serait important, là, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être engraissé. » Donc là, le texte a l'air simple, a l'air quand même assez clair, mais vraiment pas clair, dans le fond. Depuis l'adoption de ce texte-là, qui date de 1791 dans le Bill of Rights américain, là, qui est en gros les 10 premiers amendements de la Constitution, il y a eu un long débat à savoir si ça protégeait le droit individuel à porter des armes, ou tout simplement on référait au droit des États, donc exemple la Californie, à se créer une milice étatique pour contrecarrer et avoir une certaine autonomie face au fédéral. Donc là, il y a un débat juridique qui a duré des centaines d'années, et vraiment, il y avait deux théorie qui s'opposait. Donc, il y avait les défendants, ce qu'on appelle l'originalisme. En fait, ça, c'est une théorie qui dit que la Constitution américaine doit s'interpréter telle qu'elle avait été écrite à l'époque. Donc, on ne doit pas la faire évoluer. C'est un texte qui est mort. Et il y avait aussi, à l'opposé, ceux qui étaient fans de la théorie de l'arbre vivant. La théorie de l'arbre vivant, ça dit qu'on doit faire évoluer la Constitution au gré des avancées sociales. Au Canada, c'est pas mal ça qu'on préconise. Là. On peut voir avec, exemple, l'avortement ou l'amitié à mourir, là, si c'est passé.
Si je peux te couper, excuse-moi, Hélène, pourquoi aux États-Unis c'est différent d'ici par rapport à la Constitution elle-même? Est-ce que c'est un enjeu de culture?
C'est un enjeu de culture, oui. Au Canada, on est beaucoup plus progressiste qu'aux États-Unis, puis on est beaucoup moins attaché à notre texte constitutionnel. La tradition britannique est plus importante au Canada, puis en Grande-Bretagne, ils n'ont pas de Constitution, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, on peut voir ici la différence. pense.
Oui, mais tu parlais des deux approches juridiques, dans le fond, qui étaient principalement, dans le fond, utilisées. Est-ce qu'on peut camper des juges dans certains... dans certaines approches, comme exemple des juges plus conservateurs ou des juges plus progressistes dans certaines approches?
Ouais, ben c'est pas 100% des conservateurs qui sont d'un côté, progressistes de l'autre, mais généralement les conservateurs sont plus originalistes, puis les progressistes sont plus des évolutionnistes. Puis ça reste aussi qu'avec l'approche-là, il faut aussi voir qu'il y a deux façons de checker un texte juridique. Donc on peut être de manière grammaticale, c'est-à-dire qu'on texte, on regarde le libellé, donc qu'est-ce qui est écrit, puis on essaie d'interpréter avec le sens évident, donc le sens qui reste supposé. Ou on peut être de manière téléologique, là, c'est un terme un peu compliqué, mais qui veut dire, dans le fond, qu'on veut checker l'intention derrière le texte. Donc, on veut checker les débats, on veut checker c'était quoi le problème que le législateur voulait contrecarrer avec le texte.
Puis, avec le deuxième amendement de 791, il y a déjà eu des décisions de la Cour suprême qui ont été prises en lien avec ça.
Ouais, la décision la plus importante qui fait force de droit en ce moment, là, c'est District of Columbia contre Heller. Ça date de 2008. Puis, dans le fond, le District of Columbia, pour ceux qui ne savent pas, c'est Washington, D.C., là, c'est la ville de Washington. Puis, eux, ils avaient fait une loi assez sévère sur les armes à feu, là, qui empêchait les armes à feu dans les maisons pratiquement au complet. Là. Et bon, ça a été jugé inconstitutionnel. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans le fond, ce qu'a fait la Cour suprême dans une décision extrêmement serrée, là, 5 juges contre 4, ils ont décidé que la virgule que j'ai mentionnée au début séparait le texte en deux. Et que la première partie qui parlait des États était seulement un préambule. Et la seconde partie était vraiment la clause opératoire. Ce qui faisait en sorte que le préambule ne pouvait pas limiter la clause opératoire. Ce qui voulait donc dire, selon eux, que le droit était individuel. Donc, ils ont vraiment été d'une approche qui est grammaticale, qui est originaliste. Ils ont aussi été voir les interprétations que les gens faisaient à l'époque pour voir comment les gens interprétaient. Puis, ils ont décidé ça.
Parfait. Évidemment, la tuerie qui a lieu à Old Valley la semaine passée relance le débat, justement, du deuxième amendement aux États-Unis. Qu'en est-il de l'opinion publique concernant la part des armes?
Ben, faut dire que les Américains sont assez attachés à ce droit-là, généralement. Là. En 2008, juste après la décision que je viens de mentionner, un sondage disait que 73% des Américains étaient d'accord avec la décision qui disait que le port d'armes était un droit individuel. Donc, ce qui démontre à quel point c'est dans leur culture des droits, c'est vraiment imbriqué. Un peu à l'image du droit à l'avortement au Québec. On sait ici, on a un large consensus sur l'avortement qui est vraiment unique en Amérique du Nord. C'est un peu la même chose avec le droit du port d'armes. Ça reste que il y a beaucoup de gens qui ont remis en question ça quand même. Aujourd'hui, on voit que l'opinion générale évolue un peu. Selon un sondage Gallup de 2021, 52% des Américains voudraient des lois sur les armes plus sévères qu'actuellement, contre 35% qui préfèrent le statu quo et seulement 11% qui veulent des lois moins restrictives. Donc là, on voit ça évolue. Puis, encore plus récemment, là, le jour suivant la malheureuse tragédie, là, soit le 25 mai, 98% d'Américains étaient en faveur d'obliger la vérification des antécédents. Ça, on appelle ça le Universal Background Check, avant toute vente de fusils. Dans le fond, là, ça, c'est juste qu'on fait on regarde si les gens sont aptes à avoir des fusils. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent le basketball, l'entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, avait dit 80% des Américains sont pour ça. Ben, il avait raison. C'est vraiment ce que les études disent depuis un moment.
Lorsque Steve Kerr s'était ouvert le cœur en vue de son match, le quatrième match de son équipe, il s'était levé le cœur. Il avait mentionné d'un monologue assez fort et tranché. On va arrêter de parler de basket. Des enfants meurent aussi. Puis moi, je suis tanné de m'excuser à tout le monde de présenter mes sympathies à chaque fois qu'il y a une tuerie de ce genre-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il a pointé du doigt M. O'Connell au Sénat américain? Donc, ça a été vraiment un très beau monologue. Donc, tu fais bien de le mentionner. Steve Kerr avait raison,
oui.
Évidemment.
De ce que je comprends, Aiden, évidemment, l'opinion publique change avec le temps, mais les lois ne changent pas.
Ben non, en fait, parce que l'opinion publique, ça ne fait pas le droit. Il faut faire des lois. Donc, il y a des lois qui ont été passées là, en ce sens. La loi Brady, on l'appelle le Brady Bill aux États-Unis, en l'honneur de M. James Brady, là, c'est un attaché de presse de Ronald Reagan qui avait été touché par une tentative d'assassinat et qui était devenu handicapé à cause de ça. Donc, elle mettait des background checks, qu'on dit. Mais malheureusement, ces background checks n'étaient pas universels. Une partie de la loi a été amputée par la Cour suprême. Depuis ce temps-là, on a essayé de faire des propositions. En ce moment, il y en a deux qui ont passé la Chambre des représentants. Le Bipartisan Background Check Act of 2021 et Enhanced Background Check Act of 2021. Mais malheureusement, le Sénat bloque actuellement ça, malgré la majorité démocrate. Simplement parce qu'il y a aux États-Unis un système qui s'appelle le filibuster. Donc le filibuster, dans le fond, c'est une espèce de manière pour les sénateurs de faire des gros discours fleuves pendant les débats pour entraver la poursuite et le processus d'adoption d'une loi. Et ces débats-là peuvent juste être clôturés par un vote de 60 sénateurs sur 100. Ce qui veut dire, en gros, que les projets peuvent juste être adoptés par 60 sénateurs sur 100, ce que les démocrates n'ont pas, là, ils n'ont pas une majorité assez suffisante. Donc, pour l'instant, le Sénat est bloqué là-dessus.
Parfait. Aiden, merci beaucoup d'avoir décortiqué, dans le fond, le deuxième amendement puis, et son histoire avec nous. Je crois que nos auditeurs ont appris des choses avec ce qui a été mentionné dans les dernières minutes. Nous-mêmes aussi, on a appris des choses. Je te remercie de ton temps.
Oui, merci à vous, les gars.
Pour continuer avec notre émission et même la conclusion, on peut enchaîner ainsi. On va vous présenter le bulletin de la semaine où est-ce que moi et Marco, on décide le point fort et le point faible de la semaine sur le plan politique. Donc, je vais aller pour mon point fort, en fait, parce qu'on en a fait allusion il y a quelques minutes, mais je devais absolument parler. Mon bon coup de la semaine, c'est l'intervention de Steve Kerr lors de la conférence de presse avant son match du 25 mai, où est-ce que Steve Kerr s'était ouvert le cœur en pointant du doigt le gouvernement américain, en mentionnant « Faites quelque chose ». Et je le répète, je suis tanné de m'excuser de présenter de mes sympathies. Quand est-ce qu'on va avoir un réel changement? Quand est-ce qu'on peut vraiment amener de la... Bref, c'est j'en perds mes mots tellement c'était émotif, puis tellement il avait raison sur le coup. J'ai vraiment aimé que cet entraîneur prenne sa place publique, sa notoriété publique à ce moment-ci et pointe du doigt la culture politique américaine à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu l'extrême issue, mais c'était vraiment, vraiment bon. J'en perds mes mots, encore une fois. C'était bien dit, et puis voici mon bon coup de la semaine, ça c'est sans aucun doute. Désolé pour mes métaphores sportives semaine après semaine, mais vous comprendrez que, comme j'ai mentionné plus tôt, je suis un grand sportif, c'est dans ma culture, c'est dans mes valeurs, donc j'aime ça amener ma tasse de thé. Donc Marco, si tu peux y aller pour le mauvais coup de la semaine, si
ouais,
tu peux y aller.
Je crois que c'est unanime aussi, dans le fond, quand on a discuté ensemble. Ça a le lien aussi, justement, avec la tuerie qu'il y a eu la semaine passée. Pour moi, l'échec de la semaine va à Ted Cruz. Ted Cruz, qui est un membre du Parti républicain et sénateur du Texas, dans le fond, au Congrès des États-Unis, depuis plusieurs années. Pourquoi c'est l'échec de la semaine, à mon sens? C'est pour ce qu'il a mentionné, lors de l'entrevue qu'il a fait, concernant les portes. Pour diminuer... En fait, le problème aux États-Unis, selon lui, c'est pas le port d'armes ni les personnes qui ont le port d'armes qui effectuent des tueries dans les écoles, mais c'est l'accès pour rentrer dans les écoles. Selon lui, étant donné que les portes en arrière étaient débarrées, que c'est par là que le tireur est rentré, il est là le problème. Selon lui, on devrait diminuer les accès, diminuer les portes dans les écoles et mettre de la sécurité à une ou deux portes. Et comme ça, ça diminuerait drastiquement le nombre de morts par arme à feu dans des écoles aux États-Unis. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un cours sur la santé et la sécurité, mais au niveau des sorties de secours, d'avoir juste deux dans une école, c'est pas vraiment la chose la plus valable à avoir.
19 enfants.
Oui, 19 enfants qui ont été tués.
19 enfants ont été tués en plus de deux personnes du corps professoral de cette école.
Ouais.
J'aime pas amener mon opinion franche en radio, toutes mes excuses, mais celle-là, faut en discuter. C'est la fiasque la semaine pour Ted Cruz. Là.
Effectivement, de mon côté, c'était ça. C'est vraiment ça qui m'a frappé. Donc.
Mais on aurait conclu notre deuxième épisode, Marco, déjà. Ouais. Fort intéressante. Déjà une meilleure réussite, il n'y a pas eu de bug technique comme la semaine dernière, ça pour en discuter. Oui. Mais pour ce qui est de la semaine prochaine, peux-tu nous présenter l'un des gros sujets de notre épisode de la semaine prochaine?
Oui, la semaine passée, j'avais mentionné en onde justement qu'on allait parler aujourd'hui justement du scandale de commandite, mais étant donné toute l'actualité politique qui s'est passée avec la loi 96, avec le débat à la chefferie, la tuerie qu'il y a eu la semaine passée qui a relancé le débat sur le deuxième amendement des États-Unis, ben, on n'a pas pu en parler aujourd'hui. La semaine prochaine, on va en parler. On va recevoir, dans le fond, l'économiste Alain Thérien et l'économiste Jean-Denis Garon. Avec lui, on va discuter, dans le fond, du scandale de commandite, dans le fond, du programme programme des commandites aussi, qui a duré de 96 à 2004. On veut savoir c'est quoi l'émergence de ça et comment, dans le fond, l'argent public a été utilisé, dans le fond, pour faire la promotion du Canada au Québec. C'est vraiment de ça qu'on va discuter la semaine prochaine pendant une grande partie de l'émission, puisque ça fait déjà 20 ans que le scandale des commandites a éclaté dans les journaux, où ce qu'on voyait, dans le fond, les débuts de ce qu'allait devenir le scandale des commandites.
Merci Marco, merci chers auditeurs et auditrices pour votre présence aujourd'hui. C'était Les Attachés de presse, émission hebdomadaire de politique à la radio CFA 88.3. On se voit la semaine prochaine à midi pour un prochain épisode. Merci beaucoup.